RCF.
Quel regard Pierre Claverie pose-t-il sur l'islam, Jean-Jacques Pérennès ?
Un regard un peu décoiffant. Pierre détestait la langue de bois. Or, quelquefois, sur ces sujets, il y a de la langue de bois. C'est-à-dire pour gommer les aspérités, on dit « mais il n'y a pas de problème, d'ailleurs nous sommes les religions du livre, les descendants d'Abraham, etc. » Ce sont des propos creux. Et en réalité, Pierre avait une vive conscience des obstacles, il disait même l'abîme qui nous sépare. Et en 88, il est jeune évêque, il est invité à faire une conférence à la mosquée de Paris. Et il commence d'entrée de jeu en disant « plutôt que de dire que tout va bien, commençons par reconnaître d'abord que nous avons un passé commun très difficile, avec entre nous beaucoup de violence et beaucoup de polémiques. » Et donc avant toute entreprise de dialogue aujourd'hui, peut-être faut-il commencer par faire du déminage, c'est-à-dire par reconnaître que dans le regard mutuel de l'un sur l'autre, pour les uns, les chrétiens, c'est les croisades et la colonisation. Pour les autres, l'islam, c'est l'incendie du Saint-Sépulcre par El-Hakim et c'est les djihadistes d'aujourd'hui. Et donc Pierre insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a de dialogue en vérité que si on rencontre l'autre dans sa différence. Et non pas si l'on cherche le plus petit dénominateur commun. Parce que si on cherche le plus petit dénominateur commun, les chrétiens ne pourront pas parler de la Trinité, parce qu'un musulman considère ça comme du polythéisme. Les musulmans ne pourront pas dire leur admiration pour Mohammed, sur lequel on a un avis nuancé, on va dire. Voyez ? Et donc chacun ne veut pas exister tel qu'il est. Or, pour qu'il y ait un vrai dialogue, il faut que chacun existe dans sa vérité réciproque.
Est-ce qu'il y a une limite quand même ?
Je pense que lorsqu'on a créé, et c'est là où il avait justement son don pour l'amitié aidé beaucoup, lorsqu'on a créé un niveau suffisant d'amitié et de relations humaines fortes, ensuite on peut se permettre d'être en désaccord. Et moi c'est une expérience que j'ai beaucoup fait au Caire, où je travaillais pendant 15 ans dans les questions islamo-chrétiennes. Je disais toujours, lorsque nous avons réussi à créer un terreau de relations humaines de bonne qualité, ensuite on peut aborder les questions difficiles.
Est-ce qu'on peut parler de confiance ?
Absolument, confiance, connaissance mutuelle, respect mutuel, etc. Mais je dirais c'est assez rafraîchissant son approche parce que il y a un souci de vérité dans la rencontre. Alors que souvent, dans le dialogue, on a dit oh ben, on va laisser de côté ce qui fâche. Ben non, il faut regarder ce qui fâche. Alors, avec délicatesse, avec talent, avec patience, probablement on peut pas tout traiter du même jour. Il avait un regard très original. Il n'aimait pas beaucoup d'ailleurs les grandes rencontres islamo-chrétiennes. Ça lui paraissait un peu du verbiage.
Qu'est-ce que vous appelez des grandes rencontres?
Il y a eu après Vatican II, vous savez, le texte Nostra Aetate, il y a eu toute une réflexion de l'Église catholique sur la rencontre avec les autres religions. Donc il y a eu des grandes conférences islamo-chrétiennes à Cordoue, à Tripoli, etc., qui étaient un peu des grands messes, si j'ose dire, un peu unanimistes. Et lui qui était sur le terrain, il voyait que sur le terrain, ce n'est pas du tout si simple que ça. Donc il préférait peut-être être à un niveau plus inférieur et avoir une vraie rencontre dans la vie réelle avec des gens réels. Vous savez, moi, c'est mon expérience personnelle. Quand on vit avec des musulmans, on est très impressionné par leur sens de Dieu, par exemple, qui habite leur vie, par la place de la prière dans leur vie. Donc là, j'ai plus un regard abstrait, idéologique sur la religion de l'autre. Je rencontre un croyant dans son acte de croire. Et ça, ça change tout.
Mais est-ce que Pierre Claverie a vraiment vécu le dialogue islamo-chrétien ? Est-ce qu'il a eu des échanges sur le plan la religion ?
Tout le temps ! Tout le temps. Il nous amusait parce qu'on avait notre dentiste, docteur Zinaï, à Alger, qui était un passionné de Saint-Augustin. Et alors, quand on avait la bouche ouverte chez le dentiste, il faisait des grandes tirades sur Saint-Augustin. Et Pierre et moi, nous avions le même dentiste. Je veux dire, c'est... Donc, oui, tout le temps, évidemment. En plus, je veux dire, les musulmans cultivés, mais pas seulement les musulmans cultivés, ils sont avides de rencontrer quelqu'un avec qui on peut aborder ces sujets-là. Parce que justement, souvent, il y a de la peur, voire de la polémique. Mais quand vous avez quelqu'un avec qui on peut être détendu et dire « Allons, j'ai essayé de comprendre, explique-moi la Trinité, explique-moi qu'est-ce que c'est le culte de la Vierge Marie, que c'est pas l'idolâtrie, que c'est... » Vous voyez, là, il y a une vraie rencontre qui se passe.
Alors, on a parfois justement l'impression que le dialogue islamo-chrétien, il est un peu toujours dans le même sens, que ce sont souvent les chrétiens qui l'initient, qui le réclament, qui le favorisent, oui. Et que les musulmans sont plus passifs de ce côté-là.
C'est vrai, mais c'est aussi plus compliqué pour eux. Je veux dire, ils sont pas dans des sociétés de liberté, ils sont pas dans des sociétés où penser différemment est facile. Et donc, oui, mais cela dit, il y a quand même des gens, mais de fait, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Mais Pierre avait ce souci, oui, de la rencontre dans la vérité.
Jean-Jacques Pérennes, Pierre Clavrie, était respecté comme chrétien par les musulmans d'Algérie ?
Il était non seulement respecté, mais terriblement aimé. Je veux dire, d'abord parce qu'il a pris position. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il l'a payé de sa vie pendant les années difficiles, pour que voilà, les droits de chacun soient respectés. Et puis, il avait tissé un réseau extraordinaire, une image. J'étais présent à Oran en 81 lorsqu'il est accueilli dans sa cathédrale. Nous étions quelques centaines de chrétiens et peut-être 50 musulmans. À ses funérailles, c'était le contraire. Il y avait beaucoup plus de musulmans que de chrétiens et ils pleuraient comme nous. Et ils nous disaient « c'est notre évêque ! On enterre notre évêque !» J'en suis ému encore, c'était impressionnant. C'est-à-dire qu'ils avaient compris que c'était l'évêque d'Oran. Pas seulement l'évêque des catholiques, c'était l'évêque d'Oran. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que c'est extraordinaire qu'on va le béatifier à Oran, c'est que c'est extraordinaire.
Il est là-bas.
Il est là, il est chez lui. Il y est enterré d'ailleurs.
Ce dialogue, il est au-delà des théories, au-delà des grands discours, au-delà de la théologie. C'est un dialogue humain aussi.
Il faut tout ça aussi, je veux dire, il faut de la théologie. Le vrai dialogue ne peut pas se passer de réflexion théologique. D'ailleurs, c'est un gros défi, le dialogue interreligieux. Autant on peut penser la continuité du judaïsme au christianisme, comment penser un après le Christ ? Si vraiment le Christ accomplit la révélation, est-ce que quelque chose peut venir après ? C'est très compliqué au plan théologique. Mais déjà, si on fait le travail d'approche humaine, relationnelle, ça, les chrétiens d'Algérie le font très bien.
C'était original dans les années 80 ?
C'était assez original, oui. Il n'y avait pas la suspicion d'aujourd'hui sur le dialogue islamo-chrétien, parce qu'il n'y avait pas encore eu l'islamisme politique, les ravages d'Al-Qaïda, de Daesh, les massacres des chrétiens d'Orient, etc. C'était moins compliqué à l'époque que ça ne l'est aujourd'hui. Mais quand même, oui, il fallait déjà un certain courage pour éviter la langue de bois.
Est-ce qu'il était très en lien avec les moines de Tibirine de ce point de vue-là ?
Oui, bien sûr. Vous savez, l'église d'Algérie est une toute petite réalité, tout le monde se connaît. Et donc Pierre se rencontrait assez souvent avec Christian de Chergé, avec Henri Tessier, avec... Oui, c'était un milieu qui réfléchissait ensemble.
Donc vous l'avez dit, il a été nommé évêque d'Oran en 1981.
Oui.
Et vous ouvrez ce chapitre concernant cette période, 81-87, par ces mots « Un évêque en Oranie, des débuts heureux ».
Oui,
c'était un évêque heureux ?
Oui, il en a bavé après, mais oui, ça a été heureux parce que lui qui est algérois découvre l'Oranie, qui est plus, encore presque plus chaleureuse. C'est pas une capitale, c'est une église plus petite aussi, c'est moins officiel, il n'y a pas les ministères, il n'y a pas la présidence, donc il va nouer des relations de très bonne qualité avec les autorités algériennes, avec les soufis de Mostaganem, avec les pieds noirs qui sont là aussi, et il est pieds noirs, donc il est extrêmement à l'aise avec eux, Et puis il aura l'intelligence de mettre les locaux de l'église, qui sont devenus trop grands, au service des besoins de l'église et du pays. Et donc, comme dit Thierry Becker, nos locaux, au lieu de souligner notre vide, soulignent notre présence, puisqu'on les met à disposition de tout le monde.
Ça, c'est un geste fort, plus que symbolique.
Oui, il avait créé ce qu'il appelait les plateformes de service et de rencontre. Donc les grands presbytères, tout ça, ben, c'est plein de vie, ça fourmille de vie, c'est formidable.
Et puis il continue de prêcher.
Il prêche évidemment dans sa cathédrale. Il a une tribune très lue dans son bulletin diocésain qui s'appelle Le Lien et qui était vraiment chaque mois un texte très attendu. Et puis il a ses retraites d'été, il ne prenait pas de vacances. Ses vacances, c'était les temps de retraite spirituelle qu'il prêchait surtout à des religieuses. Il en a prêché beaucoup au Liban à cause de son lien avec les sœurs libanaises et où il aborde toutes les questions que se posent en religion au monde musulman.
La liberté que vous soulignez le concernant, elle est de quel ordre ?
Je crois que c'est d'abord une liberté intérieure. Quelqu'un qui a une relation à Dieu, qui n'est pas une relation de peur, qui est une relation filiale, de confiance. C'est aussi, je crois, très dominicain. Nous sommes un ordre où on fait confiance aux personnes, avec des gens très différents. On trouve tout et son contraire, mais on vit ensemble. Et on peut même s'apprécier comme ça, dans cette différence-là. Donc c'est à la fois sa foi, son éducation, sa formation dominicaine. Je crois que c'est aussi une des caractéristiques de sa personnalité. C'est un homme libre. Par exemple, sur les questions difficiles de l'Algérie et de la quasi-guerre civile dans laquelle il est plongé, il a dit ce qu'il pensait.
C'est un homme qui n'avait pas peur.
Oui, il a pris des risques. Il a pris beaucoup de risques. Je lui ai souvent reproché. Je lui dis, Pierre, tu prends trop de risques, tu exposes trop. Il n'aimait pas que je lui dise ça. Parce qu'il pensait devoir le faire et de fait...
C'est-à-dire prendre la parole, se positionner...
Prendre la parole, je veux dire, quand il est intervenu dans le journal Le France 2 à Paris sur la situation, évidemment, tous les Algériens d'Algérie regardaient ça et ça le désigne vis-à-vis à la fois des autorités, des groupuscules islamistes, enfin, ça le met sous les feux de la rampe, si vous voulez. on avait envie de lui dire, pour vivre heureux, vis un peu caché. Mais c'est, il estimait, il dit, ma parole porte, donc je dois dire quelque chose.
C'était son devoir ?
Il considérait, je pense, que comme il pouvait être entendu, il devait parler au nom de ceux dont la voix n'était pas entendue. Et alors, dans ce drame des années noires de l'Algérie, il a été extrêmement proche. Ce n'était pas un militant politique, mais en même temps, il a été extrêmement proche de tous ceux et celles qui, justement, militaient pour ce qu'il appelait une humanité plurielle, c'est-à-dire une Algérie ouverte, fraternelle, plurielle. Alors que les mouvements islamistes voulaient refermer ce pays. Et l'Algérie, c'est un pays de la Méditerranée, c'est un pays d'échange avec l'Europe, c'est un pays multiculturel.
Et lui prêchait, c'est le cas de le dire, cette Algérie-là.
Il le disait, il était très proche, par exemple, des mouvements féminins. Il avait plein de copines, des amies, femmes. Vous savez, lorsque le fils et les partis islamistes ont eu de l'influence en Algérie, les premières victimes, ça a été des agents de l'État, des policiers, des magistrats. Les deuxièmes, ça a été les journalistes, les femmes qui travaillaient, etc. Ceux qui symbolisaient une Algérie ouverte et fraternelle. Et là, il les a beaucoup soutenus, en prenant des risques.
On se retrouve demain pour conclure.
Merci.